jury, RTL Le Figaro, LCI. Invité François Bayrou, président du Modem. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. Vous en êtes l'invité, François Bayrou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Étienne Moujotte du Figaro et d'Éric Revel d'LCI. Le congrès de Reims du Parti Socialiste s'est donc terminé aujourd'hui. Il n'y a pas de ligne politique. Quant au dirigeant de ce parti, il sera élu à la fin de la semaine. Trois personnalités vont soumettre leur candidature aux militants. Il s'agit de Ségolène Royal, Martine Aubry et Benoît Hamon. Nous allons regarder dans le détail avec vous, François Bayrou, ce congrès, puisque il semble que pour une part, la question de l'alliance ou pas avec le Modem a été au centre des débats et a peut-être fini par empêcher les socialistes de trouver un accord entre eux. Mais avant d'évoquer ces points précis, peut-être serait-il intéressant de vous entendre de manière générale sur ce que vous pensez, comment vous regardez ce Parti Socialiste après ce congrès qui s'achève donc dans les conditions que j'ai décrites.
Si on a le choix des adjectifs selon qu'on est proche ou lointain du Parti Socialiste, c'est entre tragi-comique et désespérant. Selon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est aussi le choix entre ces adjectifs selon qu'on a le souvenir de ce que le Parti Socialiste a été ou est pour des millions de Français. Et c'est à cela que pour moi je m'attache. Il y a beaucoup de gens qui y ont cru, y croyaient. Et qui aujourd'hui découvrent avec stupéfaction que l'organisation à laquelle ils croyaient est égarée et ne réussit pas à trouver son chemin.
Vous êtes surpris par cet épilogue de ce congrès ou alors vous l'aviez anticipé ?
Franchement, si je vous disais que je suis surpris, ça ne serait pas sérieux. J'ai depuis très longtemps, je crois, analysé quelle était la situation du Parti Socialiste aujourd'hui. Sans être donneur de leçons, parce que c'est un grand parti politique français, mais je crois qu'il est au bout d'un cycle. Il y a 37 ans, il y avait un article de journal d'un de vos confrères qui disait, au fond, il y a dans les trois partis politiques français qui apparaissent dans ce débat présidentiel, le Parti Socialiste a 37 ans,
le Modem et le Parti
37 ans, l'UMP a 6 ans, et nous, Mouvement démocrate, Modem, nous avons un an. Pas tout à fait encore un an, on aura un an bientôt. Et c'est pas si facile non plus d'être un parti en création, et je sais qu'il n'est pas facile d'être un parti en fin de cycle, donc je regarde cela simplement avec le sentiment que, à tous les Français qui cherchaient une réponse au congrès du Parti Socialiste, quelle qu'elle soit, à la situation du pays, à son avenir, ceux-là n'ont pas trouvé de réponse et il y a là sans doute des motifs de réflexion.
Étienne Moujotte.
Alors pour venir au fond du débat de Reims, Jean-Michel Apathy le disait, l'un des problèmes de fond a été alliance ou pas avec le Modem. Parmi les trois candidats, deux, Martine Aubry et Benoît Hamon, sont contre toute alliance du PS avec le Modem. Ségolène Royal est pour. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes favorable à Ségolène. Et vous voteriez Ségolène si vous étiez socialiste.
Eh bien, je ne suis pas membre du Parti Socialiste et n'ai pas l'intention de le devenir. Alors, je voudrais m'arrêter une seconde à ça. Qu'est-ce qu'on dit quand, comme un très grand nombre de leaders du Parti Socialiste, on dit « je refuse d'avoir le moindre contact avec les démocrates français, le Modem des intouchables ». Qu'est-ce qu'on dit ? Ça, c'est de la langue de bois, mais qu'est-ce qu'on dit en français ?
Qu'est-ce que ça veut
dire ? Ce qu'on dit en français, c'est « je choisis que le pouvoir actuel, que Nicolas Sarkozy, reste en fonction pendant 10 ans ». C'est ça qu'on dit. Parce que si vous refusez de rassembler, alors vous choisissez de favoriser ceux dont, apparemment, vous désapprouvez les choix. Et cette option majeure, elle se heurte à la loi qu'en tout cas moi j'appliquerai au nom de tous ceux qui pensent qu'il faut changer d'orientation et la prochaine échéance c'est, s'il n'y a pas d'accident, 3 ans et demi. La loi que j'appliquerai c'est le rassemblement le plus large possible. La fédération de tous ceux qui veulent que ça change et peuvent se réunir sur un projet, ce que j'espère.
Je ne veux pas traduire la pensée de Martine Aubry ou de Delanoë ou de Benoît Hamon. Ce n'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, on ne peut pas s'allier avec le Modem quand on est un parti de gauche, parce que François Bayrou et le Modem, sur des sujets essentiels, et notamment économiques et sociaux, eh bien, ne sont pas de gauche, mais sont de droite.
J'imagine qu'on va le voir. Je comprends très bien qu'il y ait, dans l'opinion française, des gens qui se réjouissent d'un choix partisan, sectaire, fermé, qui favorise le maintien au pouvoir de ceux qui y sont aujourd'hui autour de Nicolas Sarkozy. Je comprends très bien. Mais simplement, je dis que le sentiment de responsabilité de tous ceux, d'où qu'ils viennent. Et pour moi, personne n'est disqualifié comme citoyen français parce qu'il a eu des parcours politiques qui n'ont pas toujours été sous la même étiquette. Mais tous ceux qui, d'où qu'ils viennent, acceptant de se fédérer, voudront que dans 3 ans et demi intervienne un changement majeur pour le pays, cela... La fédération de cela est pour moi un devoir, pas seulement une opportunité, pas seulement de la politique, on s'en fiche. C'est un devoir pour la France, parce que je vais vous dire quelque chose. Dans 10 ans, de l'irrémédiable aura été produit pour la société française, pour la France, pour l'équilibre de la société française. Je crois que si j'énumère devant vous à toute vitesse les décisions qui viennent d'être prises, le travail du dimanche, la retraite à 70 ans, un certain nombre de décisions dans le domaine de l'école, tout ça, ça veut dire que de l'irrémédiable aura été produit. Et vous croyez qu'on va se croiser les bras comme ça, simplement parce que l'étiquette du voisin ne satisfait pas absolument les impératifs, au demeurant, de manière totalement hypocrite.
Éric Revel,
si vous me permettez une seconde de finir avec cette considération, et je suis sûr que vous rebondirez après. Tous ceux qui montent à la tribune pour dire jamais, jamais de contact, ceux-là, ils ont tous dans leur motion, eux-mêmes ou de leurs amis, qui ont fait, dans leurs élections locales, alliance avec responsables locaux du Modem. Et est-ce que ça a produit du mal ou du bien pour la société française ? Ça a produit du bien.
Travailler avec la gauche, ça produit du bien.
Ça produit du bien, et travailler avec la droite quand elle est bien, ça produit du bien. Nous avons assumé, je répète devant vous, j'ai voulu que nous soyons capable de nous entendre avec Alain Juppé à Bordeaux et de nous entendre dans le même temps avec Martine Aubry à Lille.
La seconde est passée.
Pardon ?
Je peux rebondir maintenant.
Allez-y, la seconde est passée. Mais ça valait la peine de le rappeler parce que tout ça.
Alors on voit dans les yeux François Bayrou qu'évidemment, le fait que le Modem soit au centre du jeu de ce congrès de Reims ne vous fâche pas, au contraire. Hein, vous rend de la lumière et de la joie dans le regard. Mais quand vous appelez de vos voeux un mouvement du côté du Parti Socialiste, quand vous voyez qu'il y a 3 motions qui représentent 70% des militants qui ont voté pour un ancrage à gauche du Parti Socialiste, est-ce que vous êtes certain que ce qui va sortir des urnes le jeudi 20 ou le vendredi pour un éventuel second tour sera un mouvement du Parti Socialiste en direction du Modem ou bien un ancrage du Parti Socialiste beaucoup plus à gauche ?
Je vais vous dire, quand ils disent « nous n'aurons jamais de contact avec le centre », s'ils étaient comme Pinocchio, avec le nez qui s'allonge chaque fois qu'on ment, il ne pourrait plus entrer dans une pièce parce que le nez toucherait les murs de quelque côté qu'il se tourne. Même si on était dans un amphithéâtre.
Vous dites ça uniquement parce que... par rapport au... Excusez-moi, parce que les traités de menteurs, c'est une chose, mais alors...
Menteur...
Pinocchio, c'était...
Pinocchio,
menteur,
hein, voilà.
Quand il mentait, il avait le nez qui s'allongeait. Vous dites ça par référence aux contacts que vous avez dans les municipalités, ou bien vous suggérez que vous avez, avec ces leaders qui dénoncent à la tribune des contacts avec le Modem, vous, des contacts personnels, François Bayrou ?
Ben, heureusement qu'à l'Assemblée nationale, j'ai des contacts personnels avec les uns et les autres. Et au Sénat, mes amis ont des contacts personnels avec les uns et les autres. Et quand on se croise dans une émission, on parle. Je voudrais que vous entendiez cela. Je n'ai pas d'ennemis héréditaires dans la vie politique française. Il n'y a pas en France des citoyens à qui je refuserais de serrer la main. Il se trouve que dans le champ démocratique français, je considère, peut-être suis-je seul, mais je maintiendrai cette position, que nous avons le droit et le devoir de parler avec tout le monde, parce que les repères du XXe siècle ont disparu au XXIe. Les journaux que vous écrivez ont été pleins de papiers qui expliquaient combien il était habile que Sarkozy doubla sur sa gauche le Parti Socialiste pour aller fabriquer des politiques improbables. Vous avez tous écrit ça avec admiration. Qu'est-ce que vous nous racontez de l'incapacité qu'est-ce que vous nous racontez de l'interdiction qu'il y aurait de parler avec des concitoyens? Je considère que les grandes forces démocratiques du pays sont peuplées de concitoyens avec qui on parle de l'avenir.
Je voulais faire mon Jean-Michel Apathy et vous citer Vincent Peillon le 13 novembre dernier. En l'état actuel des choses, il ne peut y avoir d'alliance avec le Modem puisque le Modem ne sait pas s'il est à gauche ou à droite. Vincent Peillon, proche de Ségolène Royal.
Eh bien, si vous avez la curiosité de fouiller dans les archives du journal Libération, je crois, le vendredi précédant notre université de rentrée, vous trouverez une interview du même Vincent Peillon, dont le titre est « Je suis pour un accord de gouvernement entre le PS et le Modem ». Le même. C'est-à-dire que Vincent Peillon, il pourrait même plus entrer au Stade de France si son nez s'allongeait. Bon, et ils sont tous comme ça à la vérité.
Vincent Peillon, il travaille. Enfin, là, vous savez, là, on mélange. Enfin, là, on ne sait plus trop où on allait, mais Vincent Peillon, justement, il travaille avec Ségolène Royal.
Oui, ben vous voyez.
Il souhaite avoir un accord avec le modèle.
Vous voyez tout ça. Bon, tout voilà, ça est tellement, n'est-ce pas? On est tellement dans un dédale et dans un labyrinthe. On est tellement dans le mensonge tactique. Parce que naturellement, tout ça, c'est pas du tout qu'ils le croient. Ils sont uniquement préoccupés de prendre un petit avantage sur une telle ou sur un tel, ou d'équilibrer les choses. Eh bien, je vais vous dire quelque chose de surprenant. Je vous raconte une histoire. J'étais à Nîmes, à laquelle des confrères à vous ont assisté, donc c'est vérifiable. J'étais à Nîmes vendredi, jeudi soir. Et vendredi, dans une visite d'entreprise. J'avais un meeting avec 300 personnes qui étaient là, qui étaient venues parler longuement. On a parlé de tous les aspects de la crise de la société française. Et puis, à la fin, l'un de ceux qui étaient là a dit « Mais enfin, on ne va pas finir la réunion sans que vous nous disiez un mot du PS et de son congrès. » Il n'a pas pu finir la phrase. Ça a été un chahut de huées comme si les Français n'en pouvaient plus de ces jeux. Alors, moi, je n'en parle pas, je ne condamne pas, parce que je sais très bien que vivre dans un parti, c'est pas simple et facile. Mm-hmm. J'ai une assez sérieuse expérience de ce point de vue-là.
Vous compatissez un petit peu avec
mais
les
cela
socialistes.
Dit, si on pouvait éviter les faux-semblants, les postures pinocchiesques, ça serait mieux.
Alors, voilà. Précisément, pour éviter les faux-semblants, vous semblez souhaiter d'accord avec les socialistes, vous dites c'est presque de sécurité, de quelque chose qu'il faut faire absolument.
Un devoir pour la France.
Un devoir absolu. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec eux d'un programme de gouvernement qui vous amènerait à gauchir sensiblement vos positions, car à Reims, le Parti Socialiste, c'est
gauchir. Étienne Moujotte, quel que soit le regret que j'ai de ne pas faire ce plaisir aux journalistes éminents que vous êtes et au journal éminent que vous dirigez, je suis obligé de vous dire que rien n'est plus éloigné de moi que l'idée d'un programme commun type années 70 entre le PC et le PS. Il se trouve que je ne me sens absolument pas dans cette vision-là parce que je pense que le Parti Socialiste est en phase, je vais employer les mots les plus prudents possibles, est en phase de mutation obligée. Et que tant qu'il n'aura pas accompli cette mutation, il y aura beaucoup de chemin à faire. Je ne suis pas du tout dans cette idée. Je suis dans une autre idée, qui est celle-ci. Si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe, auquel cas vous en serez heureux et je ne doute pas que cela sera commenté et écrit. Si je ne me trompe pas, les Français ne vont pas se reconnaître dans la société qu'on essaie de leur imposer. Les Français vont dire « ça n'est pas cela que nous avions compris dans le contrat » que nous avions signé en votant pour Nicolas Sarkozy. Et si les Français pensent cela, alors ils ont la grande échéance politique présidentielle et législative tous les 5 ans pour prononcer leur choix. Et ce jour-là, il y aura un premier tour et un deuxième tour. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a de victoire possible pour changer un projet politique au pouvoir, incarné par un président actif, on ne peut pas dire le contraire, et jeune, on ne peut pas dire le contraire, soutenu par des forces considérables, financières et médiatiques. Il n'y a de possibilité d'envisager une victoire ce jour-là que si on accepte et on promeut l'idée de rassemblement. Et de rassemblement autour de principes, de projets, d'idées dont je pense que nous allons maintenant parler.
Est-ce qu'on peut dire ce soir, François Bayrou, que vous avez définitivement les deux pieds dans l'opposition et que jusqu'à 2012, vous allez militer pour mettre en forme cette opposition avec
en tout cas, je peux vous dire qu'en effet...
C'est plus le nini, là.
En effet, mais contrairement à ce que vous croyez, je n'ai jamais prononcé la phrase nini.
Non, c'est une formule qui a un sens.
Je pensais que les solutions proposées par Nicolas Sarkozy et les solutions proposées par le PS n'étaient pas les solutions qui convenaient à la France. Et j'ai tiré les conclusions jusqu'au bout et vous avouerez qu'elles n'ont pas toutes été faciles. J'ai tiré les conclusions de ce choix. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait dire ni-ni. J'ai pensé qu'il fallait dépasser l'affrontement droite-gauche, comme Obama vient de le faire dans son élection aux États-Unis. L'élection de Obama, c'est le courant démocrate mondial auquel je me réfère, y compris dans le nom du mouvement.
Tout le monde en France se réfère à Obama.
Hein, oui, mais tout le monde ne s'appelle pas démocrate gauche, dans le nom de
Nicolas Sarkozy le trouve formidable.
Personne n'a fait le choix d'avoir l'adjectif démocrate dans son nom.
D'accord.
Et ce choix, permettez-moi de vous le dire, n'a pas été fait tout à fait par hasard. Il a été fait parce que je pensais que la situation du monde imposait un nouveau projet de société dont le vrai nom est humanisme et dont le nom politique est démocratie. Et c'est ce courant politique-là qui m'intéresse. Donc Obama, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été capable, et McCain l'a essayé d'ailleurs, de dépasser le vieux clivage droite-gauche pour que le pays, dans sa majorité, s'y reconnaisse. Mais ça, en effet, cette volonté de dépassement des frontières, en effet, elle est la mienne.
Deux ou trois questions simples. Alors,
simples.
Hein. Souhaitez-vous, François Bayrou, la victoire de Ségolène Royal à la tête du Parti
socialiste ? Oh mon Dieu, je me garderai de...
C'est elle qui dit qu'il faut travailler avec
je
vous.
Je me garderai de me prononcer dans la compétition interne au Parti socialiste. D'abord parce que...
Souhaitez-vous la défaite
des
sectaires ?
Attendez.
C'est une autre manière de poser
d'abord
la même question ?
D'abord parce que ça n'est pas mon affaire. Et deuxièmement, parce que si j'exprimais un souhait, ça desservirait probablement ceux à l'égard desquels je forme des vœux.
Deuxième question simple. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est important pour éviter que des choses terribles se passent, c'est un devoir pour la France, avez-vous dit ?
Non, j'ai pas dit terrible, j'ai dit irrémédiable. Essayons de dire...
Les mots précis,
d'accord, irrémédiable.
Vous avez raison de me reprendre, c'est qu'en 2012, il y ait donc une alternance,
oui.
Si l'on a bien compris.
Oui.
Donc cette alternance, elle ne peut être... Peut-être que vous en serez le maître d'œuvre et l'architecte. Elle ne peut se produire, vous en conviendrez, qu'avec l'appui de la gauche.
Elle ne peut se produire qu'avec le rassemblement de tous ceux qui voudront appuyer sur le bouton « on change ».
Mais donc principalement
la gauche. Les Français auront deux boutons devant eux. Attendez. Les Français auront deux boutons devant eux. Le bouton « on continue » et le bouton « on change ». Dans le bouton « on change », au premier tour, ils auront le choix, si Dieu...
Prête vie aux uns et aux autres.
Prête vie aux uns et aux autres. Ils auront le choix entre un bouton du candidat ou de la candidate PS, du candidat ou de la candidate démocrate. Ils auront ce choix-là.
Mais l'idée, c'est quand même que le PS et le Modem, à un moment, trouvent un accord.
Mais l'idée, c'est que se rassemblent et se fédèrent tous ceux qui voudront appuyer sur le bouton « on change ». Après, naturellement... Je ferai tout ce que je peux pour que tout cela ne ressemble en rien à des accords d'appareil, des négociations autour de... Tout ce que je peux.
En revanche,
je ferai aussi tout ce que je peux pour que tous les Français, y compris de droite, parce que je pense que gaullistes, par exemple, sont des gens... Il y a une partie de ce courant-là qui ne peut pas se reconnaître dans ce qu'on est en train de faire. Et puis d'autres, mes anciens amis de l'UDF, j'imagine que c'est pas parce qu'ils ont prononcé un choix pour l'instant pour aller du côté du pouvoir qu'ils ont perdu toute leur référence.
Et alors,
tout cela J'essaierai de les fédérer.
D'accord. Alors, pour aller au bout du raisonnement, c'était là que je voulais en venir. S'il y a deux boutons en 2012, on continue ou on change. Donc, vous êtes dans le bouton « on change ». Oui. Donc, vous êtes dans l'opposition au pouvoir.
Je suis dans la confrontation avec Nicolas Sarkozy.
L'opposition. Pourquoi vous ne dites pas, François Bayrou, je suis dans l'opposition?
Eh bien, écoutez, je suis dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Je crois que tous mes actes et tous mes choix, mais je suis dans une opposition particulière qui est capable de dire oui quand ça va bien. Par exemple, ou quand ça va pas trop mal. Ou quand les choix sont cruciaux pour le pays. Par exemple, j'ai voté le plan de sauvetage du système financier international, alors que le PS était incapable de faire autre chose que de s'abstenir, ce qui, entre nous, a jeté une lumière un peu... incertaine sur la qualité de ses choix.
Vous voyez, là, vous ne dites pas le fond de votre pensée, mais enfin bon,
non, mais
on,
si.
on va faire avec lumière incertaine.
Si, mais enfin bon, je veux dire que c'était ridicule de, entre s'abstenir quand il s'agit d'une décision aussi importante que la paix et que la
mais
guerre.
Mais vous êtes dans l'opposition, c'est ça qui est important. Si
oui,
ce grand jury
fait
situer les uns et les autres,
je suis dans l'opposition au projet de société qu'on est en train de mettre en place en France.
Concrète, vous parlez de changement, vous dites en 2012 il y aura le choix d'appuyer sur un bouton où il y a marqué changement et puis ceux qui ne voudront pas, ils continueront. Bon, alors très précisément, aujourd'hui on a une crise financière, une crise bancaire, vous l'avez dit, il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays, il y a des licenciements qui sont liés à une crise financière qui a dégénéré en crise économique. François Bayrou prône le changement, mais très concrètement, expliquez-nous ce que vous feriez à la place de Nicolas Sarkozy en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes prêt à interdire les licenciements, comme le disent les plus forcenés à gauche au Parti Socialiste? Quelles sont vos solutions concrètes pour que les Français aient envie d'appuyer sur ce bouton que vous appelez celui du changement en 2012?
La première chose, c'est que je pense qu'il faut revenir sur sur le plan que le gouvernement a mis en œuvre quand il est arrivé au pouvoir, notamment en instaurant un bouclier fiscal dont la conséquence la plus claire est que tout le monde est appelé à participer à la solidarité dans le pays, sauf les plus fortunés.
Oui, mais alors c'est pas le bouclier fiscal, François Bayrou, qui évite à la France d'être en récession.
Le bouclier fiscal, c'est une position de principe qui dit que l'État ne prendra pas plus d'un euro sur deux.
Oui, eh bien moi je vous dis...
C'est vraiment hérétique de dire ça.
Moi je vous dis qu'il est en effet scandaleux quand on fait le RSA, mais vous pouvez l'approuver.
Non, le bouclier fiscal, la position philosophique, l'État a le droit de prendre sans limite de l'argent au contribuable.
L'idée est que dans une démocratie, ça doit même être dans la Déclaration des droits, dans un pays, il faut que chacun contribue à proportion de ses facultés.
Oui, et un euro sur deux, c'est pas à proportion de ses facultés?
À proportion de ses facultés. C'est-à-dire, si vous n'avez pas grand-chose, vous devez contribuer peu. Oui. Si vous avez beaucoup,
vous devez
contribuer beaucoup. Et le fait que pour le RSA, on ait inventé un système qui fait que toutes les classes moyennes sont appelées à participer à cette solidarité, sauf ceux qui sont les plus fortunés, parce que déjà atteints par le récit fiscal,
c'est quelque chose n'a pas basculé
que
dans
je
la récession
que
au
je
troisième
ne trouve
trimestre.
Pas normal.
Est-ce qu'elle ne le doit pas à son bouclier fiscal, alors que d'autres ont basculé?
Le paquet fiscal et bouclier fiscal.
Le paquet fiscal.
Voilà. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut revenir sur cette idée. Pourquoi? Pour donner des marges de manœuvre en direction de ceux qui en ont le plus besoin, et notamment, en effet, de la création d'emplois dans l'entreprise. Vous vous souviendrez que j'ai défendu pendant la campagne présidentielle l'idée que ces marges de manœuvre disponibles, il fallait les concentrer sur la possibilité pour chaque entreprise française de créer deux emplois sans cotisation sociale, sans charge. Qu'on pouvait ainsi faire dégeler un réservoir d'emplois qui, pour l'instant, n'était pas bloqué. Et le faire avec des possibilités de gains de pouvoir d'achat importants.
Mais aujourd'hui, cette mesure n'aurait pas été efficace. Parce que pour qu'elle soit efficace, il faut que les entreprises aient des carnets de commandes pour embaucher.
C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que les heures supplémentaires, c'était pas un bon choix. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Non, mais moi, ce qui m'étonne, François Bayrou.
Non,
vous êtes un peu gêné, je comprends.
C'est
exactement la conséquence de votre déclaration.
Allégements fiscaux pour créer des emplois s'il n'y a pas de carnet de commandes d'entreprise, allégements fiscaux ou pas, l'entreprise ne crée pas d'emplois. Vous le savez bien.
Il se trouve que.
Alors, c'est une économie socialiste.
Non, il se trouve que ce que je pense, c'est qu'il y a un grand nombre d'entreprises petites, quelquefois toutes petites, ou moyennes, qui auraient besoin, ne serait-ce que pour décrocher une commande, qui auraient besoin d'avoir un emploi de plus et qui ne peuvent pas le créer en raison du poids qui repose sur leurs épaules. C'est en tout cas ce que je défendais au moment de l'élection présidentielle et beaucoup pensaient dans ces entreprises que c'était juste.
On va revenir sur ce sujet-là, c'est très important, mais avouez qu'à la question générale, que faut-il faire face à cette crise mondiale qui nous assaille? Vous répondiez, il faut simplement...
Excusez-moi, on ne m'a pas posé la question de la crise mondiale, non.
Eh ben,
non, monsieur Bougeot. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette crise mondiale?
Absolument.
Premièrement,
deux minutes avant la coupure, donc vous voyez...
Premièrement, il ne faut pas raconter, si on peut, des histoires, comme on vient de le faire à propos, dans la préparation du fameux G20, en disant qu'on allait refonder le capitalisme mondial. Si l'on pense comme moi, que le capitalisme ne se refondera pas parce que le capitalisme, il est ce qu'il est. Il a sa logique interne. Et que notamment, le capitalisme financier fait partie du capitalisme. Il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'on construise les outils qui permettent d'édicter des règles et de faire respecter ces règles par un système financier qui n'a pas envie de le faire. On vient de refuser de faire ça au G20. Puisqu'il y avait des propositions que je soutenais depuis longtemps, qui étaient l'idée que le FMI, par exemple, se voit doté de ce pouvoir ou de cette injonction. Fixez des règles et faites-les respecter. On a refusé de le faire. Deuxièmement...
Bon, peut-être les États-Unis.
Peut-être.
C'est pas la France.
On m'interroge sur l'international. Deuxièmement...
Il me semble d'ailleurs que c'était une demande de la France.
Il y a une chose dont je suis depuis longtemps certain partisan et défenseur, c'est l'idée qu'on prenne des décisions opératoires dans le domaine des paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux permettent évidemment d'échapper à ces règles-là. Il y a une décision opératoire simple à prendre, courageuse, pas facile, mais qu'au moins on la formule, et que ce soit la France qui la formule. Je la propose. C'est l'idée que les États démocratiques ne reconnaissent plus les contrats passés dans les paradis fiscaux. Et à l'instant même, vous vous trouvez devant des conséquences dont vous voyez qu'elles entraînent le fait qu'on va aller passer des contrats ailleurs.
La France pourrait faire seule, par exemple?
Non, la France pourrait au moins proposer des mesures de cet ordre. Et troisièmement, si l'on veut avoir une politique sérieuse en matière fiscale dont dépend beaucoup la redistribution, alors il faut qu'il y ait une Europe fiscale. Et ça va être, selon moi, un des enjeux des élections européennes qui viennent, que de voir au moins un mouvement politique défendre l'idée que on doit bâtir des règles de fiscalité auxquelles adhéreront tous les pays, y compris, ou d'abord, à commencer par les pays de la zone euro.
Voilà quelques propositions de François Bayrou pour tenter de résoudre la crise mondiale. On écoute les informations et on se retrouve tout de suite après.
Suite du grand jury RTL Figaro LCI. Invité François Bayrou, président du Modem. Le débat dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec vous, François Bayrou. Vous avez voté, vous le disiez tout à l'heure, le plan de soutien au système financier français, aux banques. Et depuis, notamment des chefs d'entreprise disent que les banques ne jouent pas forcément bien le jeu, le crédit n'est pas reparti. Vous regrettez votre vote?
Je ne regrette pas, pour une raison simple. Si le système bancaire s'était écroulé, il y avait deux conséquences immédiates. La première, c'est que tous les foyers français se trouvaient complètement bouleversés par le fait que leur petit compte en banque ou leur épargne auraient été immédiatement fragiles. Ils auraient plus su où ils en étaient, ils auraient fait la queue dans les banques. Et deuxièmement, conséquence que tout le monde oublie, l'État aurait dû payer. l'État, c'est-à-dire le contribuable.
La garantie sur
puisque,
les
comptes. Puisque, comme vous savez, il y a une loi qui garantit jusqu'à, nous dit-on, 70 000 euros
par compte.
Ça veut dire que pour l'immense majorité des dépôts qui se chiffrent par centaines et milliers de milliards dans les banques, c'est l'État français qui aurait dû payer. Et s'il avait été appelé à payer, écoutez-moi bien, ça aurait été la banqueroute.
Mais avez-vous le sentiment,
et donc,
François Bayrou,
je dis que dans, je dis que dans une circonstance comme celle-là, c'était un devoir d'essayer au moins d'éteindre l'incendie. Et grosso modo, j'espère qu'on est parvenu. Comme on peut éteindre l'incendie.
Alors, si
on est parvenu pour une deuxième raison, c'est Gordon Brown qui a été l'initiateur, le père de ce plan. On y est parvenu pour une deuxième raison, c'est que ces sommes-là qui ont été votées, en principe, et vous entendez toute la prudence qu'il y a dans ma voix, mais en principe, ce ne sont pas des sommes qu'on devra sortir. C'est une caution. Et pour l'autre partie des sommes, ce sont des prêts, d'ailleurs à un taux extrêmement cher, puisque c'est des prêts à 8%.
4%
et donc, il m'a semblé qu'il y avait là une stratégie juste et je l'ai soutenue. Je vous rappelle qu'une semaine avant, le gouvernement avait proposé une autre stratégie que je n'ai pas soutenue, qui était le décalque en Europe du plan Paulson aux États-Unis avec 300 milliards au lieu de 700 milliards. Et là, j'ai dit que selon moi, ça ne répondait pas à la question. Parce que je ne voyais pas comment on pouvait racheter ce qu'on appelle des actifs pourris, parce que je ne voyais pas à quel cours on pouvait les racheter et selon quel périmètre. C'est exactement la déclaration que j'avais faite. Ce qui, cet ensemble de raisonnements s'est révélé juste, puisque les États-Unis ont renoncé au plan Paulson, qui était pourtant salué par un certain nombre de spécialistes ou d'analystes comme un coup de génie.
Alors, si les banques ne jouaient pas le jeu, c'est-à-dire si les chefs d'entreprise constataient que, ma foi, le crédit continue à être très resserré, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rentrer pour l'État dans le capital des banques, prendre des sanctions ? Qu'est-ce que vous préconisez, là ?
Selon moi, on ne rentre dans le capital d'une entreprise que quand on acquiert des parts sociales de l'entreprise. Je veux dire qu'acquérir des parts sociales, c'est entrer au tour de table décisionnel pour l'entreprise. Tant que ça n'est que des prêts, on n'a pas de raison d'entrer au capital. Quand vous êtes un plombier et que vous allez au chef-lieu de canton emprunter de l'argent à la banque, vous n'attendez pas que la banque devienne votre patron. Mais si les banques entraient en situation de difficulté et s'il fallait les consolider dans leur capital, alors là, oui, naturellement, l'État devrait faire face à ses responsabilités. C'est ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays, c'est ce qu'il faudrait faire en France. En attendant, l'affaire Dexia, ça pourrait se produire pour d'autres banques. Dans ce cas-là, il est pleinement justifié que quand on redresse une entreprise, on entre dans le cercle de décision.
On l'aura bien compris en vous écoutant, vous êtes un expert de la chose bancaire. Est-ce que vous avez le sentiment que les banques françaises sont totalement transparentes, que les banquiers disent bien la vérité au pouvoir politique sur l'exposition exacte de leur bilan et de leur hors-bilan, puisque finalement, jour après jour, semaine après semaine, on a l'impression qu'on en apprend davantage sur la situation réelle des banques françaises. Quel est votre avis là-dessus ?
Cher monsieur, je voudrais que vous m'expliquiez la première partie de votre phrase. On aura bien compris que vous êtes un expert du système
bancaire.
Parce que je
vous écoute, parler avec beaucoup d'intérêt.
C'est un hommage,
c'est un hommage.
Et donc, je dis
sur la réversion du plan Paulson.
Les experts dont vous êtes ont conduit dans le mur.
Non, attendez.
La pensée unique dont vous êtes un défenseur ici nous a conduit où nous sommes. Cette ère de suffisance. Que vous avez lorsque vous parlez à des citoyens qui essaient de décrire comme ils peuvent ce qu'ils voient de l'effondrement dont vous avez été des complices actifs.
Ah bon, j'étais complice actif.
Oui, vous avez été complice actif parce que vous êtes de la pensée unique.
Très loin, oui.
Et donc je dis, excusez-moi, je dis qu'il n'y a aucune raison que vous commenciez votre phrase avec ce petit air, avec ce petit air condescendant. Et donc, comme citoyen et comme élu du peuple, je vous dis qu'en effet, je considérais que le plan américain était mal inspiré, je l'ai déclaré dans les Échos, Et immédiatement, évidemment, la France a proposé la même chose et je ne l'ai pas soutenue.
Mais sur l'exposition des banques françaises,
la deuxième partie et donc, de la question. C'est voilà, très bien. Ayant réglé ce premier compte, qui méritait qu'on s'y arrête une seconde, venons-en au second. Est-ce que les banques sont sincères dans leur bilan ? Je n'en sais rien. Il y a en France des institutions qui sont chargées de les surveiller. J'espère qu'elles font leur travail. Les institutions actuelles et les institutions futures, puisque quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, M. Jouyet, a été nommé à la tête de l'AMF. J'espère bien que l'institution chargée de contrôler les banques, l'institution chargée de contrôler les marchés, la Banque de France, la Banque européenne, j'espère que tout ça fait son travail et que nous avons en effet des éléments transparents.
Merci, M. Bayrou.
Merci, Monsieur le juge.
Je voudrais revenir sur le problème de la relance. À Washington, les 20 ont dit relance générale de l'économie, coordination des mesures de relance, mais mesures nationales. Donc, en France, pour essayer de relancer l'économie, que préconiseriez-vous immédiatement?
Dans la limite de nos moyens. Ayant dit dans la limite de nos moyens, on a beaucoup dit, Étienne Moujotte. Parce que, évidemment, on a laissé se dégrader nos moyens. La vérité est que nous n'avons pas de marge de manœuvre. Mais je sais deux choses. La première, c'est que je ne suis pas favorable à la relance de la consommation ou à la relance par la consommation, aussi sympathique qu'elle puisse apparaître, parce que la relance par la consommation, c'est la relance d'autres économies, qui sont les économies de nos fournisseurs, et notamment de nos fournisseurs extrêmes orientaux. Parce que, évidemment, c'est dans le bas de la pyramide de la consommation que se déploie cette relance-là. Je suis favorable, s'il y a relance, à une relance par l'investissement. Je suis favorable à ce que, comme Jacques Delors le défendait autrefois, on concentre les facultés d'investissement, les facultés de relance que nous avons sur l'investissement, parce que ça n'est pas délocalisable. Et c'est un équipement de long terme pour le pays. Et je trouve ça plutôt mieux. Deuxièmement, je pense que si on doit avoir une politique de relance, il faut en effet qu'elle soit dans un cadre plus large que le cadre national, c'est-à-dire le cadre européen, concerté entre les pays européens. Troisièmement, vous allez me demander comment on finance ça. Et alors je vous réponds, évidemment, quand on fait une politique comme ça, on finance par l'emprunt. Discutable que soit en effet notre situation par rapport à la dette, je ne vois pas de possibilité de fermer un peu plus le robinet du fonctionnement du moteur en augmentant brutalement les impôts.
Nous avons appris vendredi que contrairement aux autres pays européens, la croissance en France était restée positive, 0,14%, nous a dit l'INSEE et le ministre de l'économie, Christine Lagarde. Comment vous expliquez cette bonne performance relative, mais bonne performance
d'abord un mot sur le chiffre. 0,14. Un mot sur le chiffre, le 0,14%.
Là, ça va être la fête de l'INSEE, là.
Non, c'est pas la fête de l'INSEE, c'est la fête des communicants. Hein. Tout ça est fait, évidemment, pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Carrément.
C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va jusqu'à la deuxième décimale. D'habitude, on disait 0,1%. Et entre 0,1 et 0%, avec les corrections qui interviennent 3 mois après, j'ai quelques scepticismes. Mais 0,14%, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit 0,147%? Les gens auraient eu le sentiment, avec l'importance du chiffre, de quelque chose de magique. Évidemment, non. Ça veut dire qu'on est en récession. Allez.
Non. Essayons de préciser. Par exemple, l'Allemagne dit notre production industrielle au troisième trimestre a reculé de 0,5%. En France, on dit elle a stagné, mais elle n'a pas reculé. Peut-être que il y a quand même quelque chose de singulier dans l'économie française. Est-ce que vous avez une explication, François Bayrou? Ou alors est-ce que vous n'y croyez pas du tout?
Verrons. J'ai vu les chiffres du commerce extérieur, ils sont catastrophiques.
Oui, ils sont très mauvais.
J'ai vu les chiffres du moral des entrepreneurs, ils sont catastrophiques. Je vois les suppressions d'emplois, et notamment les suppressions d'emplois dans les CDD, dans les contrats d'intérim. ils sont catastrophiques. Et ça, c'est autant de choses qui retentissent sur le moral. J'étais hier à Pau avec un de mes amis qui me parlait d'une étude qu'ils viennent de faire dans le monde des notaires et de la chambre de commerce pour voir ce qu'il en est. Il me disait que ce qu'il ressentait au terme de l'étude, c'est moins 25% en ce moment par rapport à l'année dernière à la même époque. Il y a donc là quelque chose qui, pour moi, signifie que nous sommes, oui, dans une très mauvaise passe et tous les artifices n'y changeront rien.
Question très précise. Le gouvernement a annoncé l'exonération de taxes professionnelles sur les nouveaux investissements, peut-être à terme même la disparition de la taxe professionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Je comprends très bien ce que le gouvernement a voulu faire et c'est pas mal inspiré. La question qui se pose, c'est par quoi on le remplace pour les collectivités locales qui sont des donneurs d'ordre très importants et qui ont la responsabilité de l'aménagement du territoire. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse à cette question. Je veux vous dire ceci. Il y a une très grande inquiétude sur le pouvoir d'achat des familles, des ménages, mais il y a une très grande inquiétude dans le monde des collectivités locales parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus faire face aux obligations qui sont les leurs, notamment dans cette très importante obligation d'équilibre du territoire français.
J'aimerais vous parler, si c'est possible, et avec le moins d'arrogance possible, évidemment, du travail.
J'ai pas dit arrogance, j'ai dit condescendance.
Condescendance, oui. Cum descendo, descendre avec. En latin.
C'est bien que voilà. Vous fassiez du latin.
Très bien.
Je souhaite que
la possibilité
le gouvernement
de travailler,
français vous suive dans cette voie.
La possibilité de travailler jusqu'à 70 ans. qu'est-ce que vous pensez sur le fond de cette possibilité ouverte? Parce que si j'ai bien compris tout à l'heure, vous avez expliqué que, au contraire, on allait obliger les Français à travailler jusqu'à 70 ans. Là, c'est une possibilité qui est ouverte pour ceux qui le souhaitent. Quelle est votre position sur ce phénomène d'allongement ?
J'ai trouvé que l'introduction d'un amendement, en catimini, si j'ose dire en catiminuit, en pleine séance, sans en avoir jamais parlé à personne.
En fait, pour être précis, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait un article apparemment mal écrit, selon l'auteur de l'amendement, je ne le savais pas non plus, mais je l'ai compris, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui voulait faire sauter la barrière des 65 ans.
Mais
cet article
c'est
mal écrit
mais vous voyez,
a été amendé. Voilà, pour être précis. Hein.
Si on avait écrit retraite à 65 ans, sauf un accord entre l'entreprise et le salarié avec un poste de travail assumable lorsqu'on avance dans l'âge. Bon, j'aurais rien dit, mais en réalité, posez-vous une question. Pourquoi est-ce qu'on a écrit 70 ans ?
Je ne sais pas.
Voilà. Eh bien, on a écrit 70 ans, selon moi, pour que s'introduise dans l'esprit des Français l'idée que retraite égale 70 ans.
Je pense qu'on prépare
les esprits à quelque chose qui est de repousser l'horizon de la retraite. Eh bien, je dis que...
Par méchanceté ou par nécessité d'équilibrer les régimes ?
Non. Par une orientation générale du gouvernement, qui est, au fond, à mon avis, celle-ci. Si vous n'avez comme considération pour que la société marche bien, que l'aspect strictement économique, comptable, financier des choses. À ce moment-là, le travail du dimanche, vous l'acceptez immédiatement, avec l'idée que ça va faire tourner les affaires. La retraite, vous la repoussez le plus loin possible. Mais ça veut dire aussi que vous ne prenez pas en considération d'autres éléments qui, pour une société, sont très importants, même s'ils ne sont pas d'origine marchande. Qui ne sont pas de nature marchande, excusez-moi. Ce qui veut dire que je pense que le travail du dimanche, il faut empêcher qu'on fasse dériver la société comme ça. Pourquoi ? Non pas pour les affaires, encore que ça ne va pas apporter une affaire. Parce que si vous n'avez que 100 euros à dépenser dans la semaine, vous n'en dépenserez pas 120 parce que le magasin est ouvert le dimanche, vous comprenez tout ça. Ça veut dire donc que les emplois créés le dimanche seront supprimés les autres jours de la semaine. Mais je referme la parenthèse. On a d'autres choses à défendre dans une société que le caractère strictement financier des choses. Et en particulier, on a à transmettre à nos enfants le fait que dans la vie, c'est pas la consommation qui est la première, qui compte le plus. Il y a d'autres choses que la consommation. Il y a d'autres choses que la production. Il y a d'autres choses que le commerce. Et ça n'est pas rien d'avoir une journée où on est poussé à s'intéresser à ses enfants, à lire des livres, à écouter le grand jury, enfin à faire des choses qui sont
pas... – Ça fait partie des loisirs, c'est bien.
– Non, ça fait partie, j'espère, du débat civique, c'est comme ça que je l'entendais. –
C'est comme ça qu'on l'organise aussi, Étienne Mojotte.
– J'essaye de lire les bons auteurs et j'ai lu Jean-Pierre Levade qui écrivait le 9 septembre « Il faut dire la vérité aux Français, il n'y a pas d'autre solution ». Que d'augmenter les cotisations de retraite et d'assurance maladie.
Jean-Pierre Levade qui est en studio. Hein.
Jean-Pierre Levade qui est au studio et comme l'ensemble des parlementaires européens et nationaux qui m'ont fait l'amitié de venir avec
moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position courageuse mais dure ?
J'ai longuement discuté avec Jean-Pierre Levade de ce sujet parce que j'ai pour lui une grande estime. Je lui ai dit ceci que je répète devant vous. En termes strictement d'équilibre financier, il n'y a pas de doute que les déséquilibres actuels doivent conduire à reprendre la manière dont nos cotisations sociales et autres sont bâties. Cependant, on ne peut pas ignorer le besoin de pouvoir d'achat des gens. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que nous reconstruisions les cotisations sociales. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais fait des propositions à l'époque hardies, bizarroïdes, en tout cas aux yeux d'un certain nombre d'experts. J'avais même imaginé qu'on puisse avoir une fiscalité écologique qui prendrait le relais des charges sociales sur le travail. Je dis ça, Corinne Lepage est là. C'est une des idées que j'ai défendues pendant la campagne présidentielle. Que la taxe carbone, dont tout le monde parle, au lieu de la consacrer à l'équilibre général du budget, on la conduise à prendre le relais des cotisations sociales, d'un certain nombre de cotisations sociales qui pèsent sur le travail. Voilà une idée. J'avais même imaginé une taxe sur les mouvements de capitaux qui pourrait venir aider et prendre le relais. Ça a été encore plus critiqué par la pensée que nous caractérisions à l'instant. Je pense en effet que c'était hors des sentiers habituels. En tout cas, pour moi, je suis très préoccupé par le souci des Français, petit salaire, et petites retraites en particulier, sur les fins du mois. Et donc, je pense qu'à cela, il va falloir apporter une réponse. Je le dis autrement, c'est la réflexion que je faisais à Jean-Pierre Levade, il le sait bien, il faut que nous ouvrions les voies pour qu'une amélioration du pouvoir d'achat ne soit pas une sanction directe pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il demeure, quoi qu'on en pense, que c'est l'entreprise qui est le lieu de la création de richesses et d'emplois. Et je suis persuadé qu'il existe une défense de l'entreprise qui n'est pas l'ennemi de la feuille de paix. Voilà.
Sur la question des délocalisations, Monsieur Bayrou, est-ce que vous imaginez qu'on puisse interdire ou entraver une entreprise qui déciderait de délocaliser une partie de sa production vers d'autres territoires où elle ferait davantage de bénéfices ?
Ouais, je pense qu'il y a délocalisation et délocalisation. Il y a des délocalisations que je considère comme inévitables, et même pour certaines d'entre elles, qui sauvent la vie d'une entreprise française. Je me souviens très bien d'avoir visité pendant la campagne électorale plusieurs entreprises. J'en ai une présente à l'esprit qui était une entreprise de moteurs de bateaux dans le sud-est qui survivait et gagnait des parts de marché et créait des emplois en France parce qu'une partie des pièces était fabriquée au Maroc. Et s'il avait fallu fabriquer toutes les pièces en France, l'entreprise serait morte. Et donc, je pense qu'il y a des délocalisations qui sont des délocalisations qui permettent la sauvegarde d'une entreprise. Naturellement, je ne les souhaite pas, mais quelquefois, on les constate. Hein, on fait des pièces à l'étranger pour améliorer des produits français. Il y a une deuxième sorte de délocalisation qui mérite réflexion de notre part, c'est quand l'entreprise qui délocalise a bénéficié d'aides publiques conséquentes pour s'installer sur un site français. À ce moment-là, il est légitime de demander à cette entreprise des comptes sur la manière dont elle organise son avenir.
Les élections européennes vont se dérouler au mois de juin de l'année prochaine. Le mouvement des démocrates aura-t-il des listes dans toutes les régions ?
Oui.
Et quel objectif vous fixez-vous ?
Je ne fixe jamais d'objectifs chiffrés. Je crois
dur
que...
pour vous, là. Hein. Je... Hein? Beaucoup de concurrence, elles vont être dures pour vous, là. Hein.
Pourquoi
Daniel Cohn-Bendit va vous concurrencer.
Il y aura 20 listes, donc c'est très bien. Je ne considère pas qu'elles seront dures, je considère qu'elles seront intéressantes et utiles pour les citoyens parce que nous proposerons un projet européen conséquent, construit et positif. Je pense que le temps impose que de nouveau on reformule le projet européen. Non seulement avec des mots nouveaux, mais avec un éclairage nouveau. Je suis très, très sensible au fait que dans la crise, les Français ont vu qu'il n'y avait que l'Europe qui pouvait répondre et qu'en même temps, ils sont souvent troublés par ce qu'ils reçoivent ou ce qu'ils entendent de l'Europe. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, héritier de la famille politique qui a constitué l'Europe, il est de notre responsabilité de lever ces malentendus et ces ambiguïtés.
Vous ne serez pas candidat vous-même, j'imagine.
Non. Mais j'ai tout à fait l'intention d'apporter toute l'aide nécessaire à tous ceux qui le seront.
À chaque émission politique significative, dirais-je, vous faites preuve d'assez d'agressivité vis-à-vis des journalistes. Et je me demandais si c'était une... Je me demandais si c'était une posture de votre part, oui, la construction d'un personnage, ou alors si ça traduisait une méfiance dans le système médiatique qui vous paraîtrait porter atteinte à la sincérité du débat démocratique.
Non. Simplement, il y a des attitudes qui sont irrespectueuses et que je n'aime pas et que donc je souligne au passage pour que chacun sache où l'on en est. Vous avez eu, je crois, avec Ségolène Royal, le même type de petite mise au point. Bon, c'est la vie. Quand on me
ça
cherche,
n'est pas un jugement global
je vais vous
sur...
dire, quand on me cherche, on me trouve.
Mais ça, vous savez, mais
ça c'est
n'est
le premier
juge.
Point. Oui, il y a un deuxième point maintenant qui est différent, qui est que, en effet, il y a du souci à se faire en France pour l'équilibre de l'information par rapport au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a, comme chacun sait, des liens très importants et même substantiels entre certains groupes de médias et le pouvoir, et l'État, et donc le pouvoir. Et deuxièmement, parce qu'on s'apprête à prendre sur l'audiovisuel public des décisions qui sont des décisions extraordinairement choquantes. Le fait que on rende l'audiovisuel public, maintenant totalement dépendant dans son financement de la décision du pouvoir. Et deuxièmement, que son président soit nommé par le président, enfin par le pouvoir directement et.
Avec avis conforme du CSA.
Et deuxièmement, révocable, ad nutum, comme on dit en latin, c'est quelque chose qui est. Une régression incroyable.
Mais vous avez l'impression,
laissez-moi finir la phrase.
Vous avez l'impression, dois-je rappeler, François Bayrou, que vous...
Jean-Michel Apathy, dois-je rappeler que la télévision n'appartient pas au pouvoir, elle n'appartient pas au gouvernement.
Avez-vous l'impression...
Elle appartient aux citoyens
que ça,
qui paient la taxe audiovisuelle et qui la paient à égalité, qu'ils soient riches ou pauvres.
Avez-vous l'impression, François Bayrou, que votre capacité d'intervention dans le débat est limitée par le système médiatique qui, selon votre raisonnement, serait aux ordres du pouvoir ?
En ce moment... Pas du tout.
Ah ben voilà une bonne nouvelle.
J'ai tout à fait le sentiment que j'arrive à m'exprimer comme je le veux.
C'est ce qui me semblait aussi.
Et il m'arrive, voilà. Je vais tout vous dire, comme ça vous allez voir à quel point de perversion je pousse mon attitude, il m'arrive de choisir de ne pas m'exprimer. Parce qu'il y a des moments où il vaut mieux se taire pour être mieux entendu par la suite.
François Bayrou, qui est finalement un acteur entendu et reçu dans les médias, la preuve ce soir, était l'invité de ce grand jury. On se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup et bonne soirée.